I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis en face de Flo. J'ai dit, putain, ça serait bien que Marc, à un moment donné, une espèce de teuf qui est seul à pas connaître, genre une espèce de Noël, un truc comme ça. Il me fait, ah, truc. Et on commence à retrouver. Moi, j'appelle tout le monde Jean Balboule, Jean Figou, un truc comme ça. Je sors le Jean Guil comme ça.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de Mashup. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Petite ambiance musicale.
Ambiance, j'adore.
Pour commencer, Jonathan Cohen, merci d'être là.
Merci à toi.
Tu vas bien, ça va?
Ça va, écoute.
Bien installé?
Il est bien le canapé, j'aime bien le fauteuil.
Il est dangereux, je le dis
souvent.
Il est dangereux
parce qu'à tout moment, je peux pioncer.
Exactement.
Et ça, je vais éviter de le faire.
Et si je ne te réveille pas, ça peut être le plus grand moment de gêne de Twitch.
Ouais, et un moment d'une demi-heure assez longue de sommeil.
Ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut faire un record de viewers. C'est juste un truc casse et je me barre. On baisse un peu la lumière.
Bon, et je ronfle en plus, donc c'est pas mal. Il y a une petite attraction, en fait.
Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On verra si tu arrives à tenir pendant le
programme. Ouais, je vais tenir. Je vais
l'interview, parce qu'on imagine que forcément le programme est chargé pour toi.
Ouais, ces derniers temps, ouais, il est chargeos. Bah, il y a eu la sortie du flambeau lundi. Ouais. Je suis encore en train de finir la post-prod du flambeau, pour te dire. Finir le son sur les derniers épisodes. Et j'ai entamé un tournage là, donc c'est assez chargeos. Mais je suis content d'être là, je te jure,
Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et pour te présenter, parce que tu es quand même partie des personnes que normalement on n'a plus trop besoin en soi de présenter, mais je pense toujours à ma grand-mère qui regarde la plupart de ces interviews-là et qui regarde et qui ne te connaît pas forcément.
Ah oui,
et,
oui.
Et du coup, je vais pouvoir te présenter quand même. Tu es acteur, réalisateur, producteur, fais plusieurs casquettes, on peut dire, multicasquettes.
Ouais, hein. Multicasque.
Multicasque, c'est un truc qui te parle. Il y a un rôle qui t'a vraiment fait connaître, en tout cas du très grand public, c'est celui de Serge Le Mytho, évidemment, qu'on a connu d'abord dans Bloqué avec. Orelsan et Gringe, et puis après c'est devenu une série à part entière
qu'on a Serge.
Notamment sur YouTube, ça c'était en 2016-2017, et à partir de là, il y a pas mal de choses qui vont s'accélérer. Tu vas enchaîner pas mal de premiers rôles au cinéma, que tu avais déjà fait d'ailleurs un petit peu avant, mais notamment Family Business, alors ça c'est dans le cadre de séries sur Netflix. Et enfin, dernière casquette, c'est celle du coup de la réalisation. Tu as une double casquette d'acteur et de réalisateur avec La Flamme en 2020, qui est forcément très connu. Et puis, plus récemment, du coup, Le Flambeau. C'est ce qu'on disait ici, sorti cette semaine. Content d'ailleurs des retours.
Écoute, franchement, assez content. J'ai remarqué vraiment que c'était attendu, en fait.
Ouais.
Et que les gens étaient vraiment au rendez-vous de la deuxième saison. Et c'est marrant comment, tu vois, Le Flambeau, comme tu as vu La Flamme et Le Flambeau, c'est une autre proposition, en fait. Parce qu'on est dans un truc d'aventure, parce qu'il y a plus de persos, parce qu'il y a plus d'interactions. Donc, t'es dans un autre rythme avec l'ADN de La Flamme, avec cet humour-là, tu vois. Et c'est marrant de voir les gens réagir, de voir quels personnages se sont appropriés, tu vois. Là, j'ai vu qu'il y a sur Patrice et Philippe, il y a une espèce de truc de ouf là-dessus. Ou sur Annick, ou sur Yvick, tu vois. Et je vois que chacun, boum, 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 est accroché à un des persos. Et c'est très, très marrant à voir.
Je serais curieux d'ailleurs de savoir s'il y a. Après, on va reparler plus en détail du flambeau, mais s'il y a des sortes d'affinités par génération. En gros, est-ce que les jeunes ont plus un intérêt pour certains persos du flambeau? Est-ce qu'il y a un côté générationnel sur certains?
Je sais pas. Parce que tu vois, par exemple, Patrice et Philippe, qui sont un peu les deux vétérans, on va dire, du show, il y y a plein de jeunes qui les kiffent de ouf. Ouais. Et tu dis, putain, meilleur truc, meilleur duo et tout. C'est dément. Après, t'as Pierre Ninet. Les scènes qu'on a, enfin, la scène qu'on a tous les deux et qui a, où j'ai vu que ça, voilà, les gens avaient adoré. Et c'est dément.
Le docteur juif.
Ouais, le docteur juif. C'est quand même des phases où, en fait, on est tellement en roue libre avec, avec Pierre que je crois que ça se sent. Et que, dans, typiquement, la scène qu'on a montrée dans l'épisode 2, il y a tellement d'impro, ouais. Il y a tellement de phases qui ont été créées sur le moment avec Pierre que les gens le sentent.
On va en parler justement de la question de l'impro. Et je rappelle d'ailleurs, pour ceux peut-être qui découvrent ce format, qu'on va revenir sur tes points de bascule, donc les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Et on va revenir au tout début, au tout tout début.
T'es sûr?
Un petit peu après la naissance. Ouais, okay, après la naissance, mais avant le flambeau.
Okay.
Ça fait un ordre de grandeur assez large.
Ouais, c'est assez large, ouais.
Okay. Et je vais taper sur la question de ton premier cours de théâtre.
Ouais.
On va commencer là, si ça te va.
Ça me va.
C'était un premier point de bascule parce que tu vas y assister avec l'insistance d'un de tes amis à l'époque, c'est ce que tu racontes.
Ouais.
Et ce cours de théâtre, tu as environ 20 ans, ouais. Il va sonner un petit peu comme un déclic à ce moment-là. Puisqu'à ce moment-là, faut le dire, c'est une période où notamment tu as été vendeur de fenêtres.
Ouais.
Donc rien à voir.
Rien à voir. Et en plus de ça, j'étais encore vendeur de fenêtres pendant que je découvrais ce cours. J'étais sapé, mec, j'étais en costume. J'avais une mallette avec un bout de fenêtre dedans.
Un échantillon de fenêtre.
Un échantillon, tu présentes un échantillon de fenêtre et tout, les nanas qui se ferment, qui souffrent.
Donc t'es capable d'analyser un peu les fenêtres qu'on a dans le...
Ouais, si tu me lances dessus, je peux te dire. Mais, et donc c'était marrant parce que moi, je me voyais un peu... Enfin, c'était, tu sais, quand tu commences à travailler un peu jeune, d'un coup, t'as un peu l'impression d'être un adulte. Et t'es là et tu vois tous ces gars qui sont sur scène, tu fais, les enfants qui s'amusent. Et j'assiste à ce cours et je pète un câble littéralement sur ce que je vois. Des gars qui s'amusent, ça fait des impros, ça doit faire deviner ce qu'ils sont en train de faire. Je me dis, putain, j'avais plus envie.
C'était un cours d'impro.
Ouais, il y avait de l'impro, il y avait aussi, il y avait aussi un truc, tu sais, où tu dois faire deviner sans des mots ce que... Que tu es en train de vivre. Dans
une sorte de Time's Up version.
Ouais, mais avec émotionnellement. Genre, qu'est-ce qu'il a pu vivre, ce mec-là, tu vois.
Okay.
Et c'était charmé. J'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux, quoi.
Fort.
Et après, petit à petit, voilà, boum, je suis rentré dans le délire.
Mais c'est fort. Et il y a notamment une question, je pense qu'on peut poser pour plein de personnes quand on voit leur parcours.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés du taf ou des études qu'ils avaient jusqu'ici à leur passion. On a des gens, tu vois, j'ai reçu des gens sur la chaîne là, et ils ont une passion depuis qu'ils ont 5 ans et en fait c'est toujours présent.
Ouais.
Et t'as des gens, en fait, ultra tardivement,
ouais.
C'est pas trop pourquoi, ils se retrouvent dedans. Toi, ça a été un peu ce truc là ou même avant ça, quand même, t'avais cet intérêt pour.
Non, ça a été ce truc là, parce que avant ça, je me permettais même pas d'y croire, en fait. Tu vois, on me disait, putain, tu devrais faire des trucs de comédie, des cours de théâtre et tout. Je suis, mais attendez, les gars. Là, parce que je fais des blagues à table, que je vais faire des cours de comédie, je crois que c'est un vrai métier ce qu'ils font et tout. Et je ne pouvais même pas l'imaginer, en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai eu cette chance, parce que c'est très marrant, tu vois, moi je viens de banlieue, tout ça, et mon seul but c'était de sortir, on va dire, de la banlieue, tu vois. Et donc de gagner ma vie, tu vois. Et ce qui est assez marrant, c'est que. En faisant ce truc de fenêtre, alors que j'avais fait des tafs avant, gars, où c'était que des échecs, un nulos, quoi, vraiment. Et ce truc-là, je commençais à gagner ma vie. J'ai dit, putain, je commence à être dans ce que je souhaitais, en fait, tu vois, dans ce dont j'avais envie de vivre, tu vois. Pouvoir gagner sa vie, s'assumer, tout ça, c'est quand même quand t'as 19 balais, c'est quand même un truc de dingue.
Oh, t'as une question de pression, j'imagine, de ton entourage.
Ouais, et puis au-delà de la pression, c'est la pression qu'on se fout à nous-mêmes, qui est la plus grosse. Hein. Alors, il y en a qui ont les parents derrière qui font médecine ou truc, ou tu vois, qui sont trucs. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai plus eu ma pression perso. Et j'ai eu la chance d'avoir, comment dire, entre ce que je désirais et ce dont j'avais besoin. J'ai eu la chance d'avoir ce choix-là, et très tôt. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, c'est ce que je désirais, c'était gagner de l'argent, et d'un coup, bam, il y a les tripes qui viennent être... on vient sonner dans le ventre, à l'intérieur des vrais besoins, et tout d'un coup, ce truc-là sonne, et ça a été un vrai choix assez balèze, en fait, parce que tu dis, waouh, je connais rien du tout à cet univers-là, mais rien, il y a zéro garantie de quoi que ce soit, de succès, de trucs, et l'autre, potentiellement, il y a peut-être un navire qui se tisse. Et je pense que c'est parce que j'étais jeune, je pense que c'est parce que j'avais 19 piges et que j'avais rien à perdre, tu vois, au pire, il se passe quoi, que je me suis lancé là-dedans, tu vois.
surtout dans des milieux, enfin tu peux te dire, je sais pas, mais que ce soit le cinéma ou le théâtre ou autre, où t'as un peu parfois une forme de pression, je pense, de t'as des gens qui sont très cultivés dessus, qui du fait de leurs parents, qui étaient peut-être dans le milieu, ont grandi dans ce truc-là, et tu peux avoir aussi une sorte de syndrome de l'imposteur, de en fait, mais moi, qu'est-ce que je fais ici, peut-être je fais un peu rire, mais
Non, mais ça a été une partie de ma vie, gars, le syndrome de l'imposteur, tu sais, où tu dis. Et surtout quand j'étais au conservatoire, tu vois, quand j'ai passé le concours du conservatoire et que je l'ai eu, tout d'un coup, effectivement, je me suis retrouvé dans une école, gars, où bah, tout le monde voulait la faire depuis quasiment, tu vois, depuis qu'ils ont 12 ans. Ils ont fait des études et puis c'était effectivement des gars qui ont fait Hippocane-Cagne, enfin, tu vois, des gens avec un bagage très, très fort, là, au moins un gage. C'est le bagage, il y avait une pomme dedans et une chaussette. Donc, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que, en fait, est-ce que je mérite d'être là? Alors que oui, j'ai passé un concours, je l'ai eu. Oui, je mérite d'être là, mais t'avais, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur assez longtemps avant de m'assumer, avant d'assumer aussi que, et c'est un truc qui est assez dur à assumer parce que, mais qu'on a potentiellement du talent en fait, tu vois, de dire oui, ben en fait oui, je mérite ma place.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ça prend un temps fou avant d'assumer ça.
Et aujourd'hui, t'as l'impression d'encore l'avoir, ce syndrome de l'imposteur ou
non?
En vrai, ça va, ouais.
Non, parce que déjà, c'est un temps perdu. C'est une énergie perdue à chaque fois se remettre en question.
De justifier, t'expliquer.
Gars, vrai, moi, j'ai tellement perdu un temps fou à me remettre en question, mais profondément. C'est pas juste, ouais, j'ai des doutes. Non, à chaque fois, c'était deep. Chaque fois, c'était, ouais, je suis pas assez bien, je suis pas assez nani, nani, nani.
Je mérite d'être aimé.
Ouais, on peut mériter d'être aimé en version la vraie vie. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, allez, stop, on va arrêter de se s'auto-flageller. On va arrêter, on va avancer tout droit, on va être un yes man. Qui est une bonne technique, je pense, c'est-à-dire qu'on on va pas refuser les défis par peur, on va les faire, même si on a peur. Et du coup, ça m'a mis dans une autre, tu vois, une autre énergie.
Si on avance un petit peu, on avance même beaucoup, parce que tu as eu pas mal d'expérience entre-temps, mais dans cet ordre de grandeur qui est ta vie, on va s'arrêter maintenant sur ta rencontre avec Kaan Kojandi, qui était forcément, j'imagine, un autre point de bascule majeur.
Complètement.
Déjà, comment s'est faite cette rencontre? Parce que tu avais été dans Bref à l'époque, et certains d'ailleurs peut-être connus avec Bref, et la rencontre avec Kaan Kojandi, comment est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce que tu as le souvenir de ça? Et qu'est-ce qu'il a amené pour toi?
Alors, Kaan, on s'est rencontrés. Lui, il avait vu, parce qu'on était, on avait en point commun Harry Torjman, qui est le producteur de Bref, mais qui était aussi le producteur d'une mini-série qu'il avait vendue à Canal, qui s'appelait Deux gars qui bossent à Canal, que je faisais avec Ben, l'humoriste. Et il faisait les deux en même temps, Harry. Donc, et Kaan m'avait vu. Parce qu'il montait à côté, dans ce truc-là, il me trouvait cool, tu vois. Et on s'est rencontrés comme ça. Et puis, Bref est arrivé, donc imagine-toi bien le raz-de-marée que ça a été. Donc, les deux gars qui bossent à Canal, ça a été à les poubelles. Et du coup, ouais, lui et Navo, ils avaient envie de me faire tourner un truc dans Bref. Et puis après, bon, on est devenus amis comme ça.
Et ça fait partie dans les projets que tu as développés avec Kaan. Il y a notamment, du coup, alors tu as participé à Bloqué, puis il y a eu, du coup, Serge Mito, sur lequel a bossé notamment Kaan dessus. Et c'est parti de ces projets-là où, justement, il y a une part d'impro qui est immense.
Ah oui.
Et on va en reparler, parce qu'on voit que c'est quand même un gros fil rouge, y compris sur tes projets suivants.
Ouais.
Qu'est-ce qui te fait kiffer sur l'aspect impro? C'est quoi? C'est le côté, tu sais pas où tu vas, et voilà, c'est cette forme de liberté, peut-être aussi, que tu as dans la façon de créer?
Écoute, c'est un peu le côté sans filet. C'est-à-dire que tu te lances sur un truc, effectivement, tu ne sais pas où tu vas. Mais justement, de sentir qu'il n'y a pas de filet, je ne sais pas, il y a un truc d'adrénaline, un truc qui s'enclenche presque de survie dans le cerveau. Et tout d'un coup, une histoire se tisse et tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as des connectiques qui se font et d'un coup, il apparaît un truc, quoi.
Mais ça paraît aussi ultra exigeant, tu vois. Et si moi, je prends l'exemple de mon taf, par exemple, j'ai un taf, quand même, où j'ai cette chance un peu bizarre de... Même si je suis crevé, même si je ne suis pas de bonne humeur, je peux présenter les actus, tu vois. Globalement, je ne dois pas faire des vannes, il n'y a pas d'impro dedans. Le truc, globalement, il est cadré et je peux m'en sortir. Toi, dans ton cas, tu as aussi un taf. Bon, déjà, je pense que le métier d'acteur, c'est quelque chose où tu t'engages plus personnellement, donc c'est quelque chose, mais... Encore plus, tu pourrais imaginer quand t'es en impro, parce que de fait, il y a une forme de créativité sur le moment qui fait que si t'es pas dans le mood ou si t'es vraiment crevé, tu vas peut-être pas réussir à l'avoir.
Ah bah oui.
Comment tu fais face à ça?
C'est là où t'as Navo et Kaan qui sont là et surtout dans Serge, on va dire le Serge le format court, tu vois. où il y avait des jours, effectivement, mec, quand tu dois faire 4... enfin, je sais pas combien de mythos on faisait par jour, c'était, c'était fou. Heureusement, on avait des petites balises, des trucs comme ça, mais surtout, quand j'avais des coups de mou, ce qui arrivait quand même, ben, ils étaient là, en fait. Ouais. Et c'est comment on relance la machine, comment un va donner un mot. Et en fait, c'est toujours un... Ça prend du temps, mais c'est toujours une petite machine qui doit se mettre en marche. Et quand, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'essence, gars, bah, faut... jusqu'à ce qu'il y ait assez d'essence pour que la machine se remette en marche, avec l'aide de Kian, de Navo, tout ça. Et... Mais, Mais ouais,
Et ça t'arrive d'avoir des regrets suite. Parce que vu que c'est de l'impro, tu peux te dire, sur le moment, tu pousses, et en fait, sur le moment, tu as ce que tu as.
Ouais.
Et après, genre une heure après, tu es en mode genre, ah putain, il y avait peut-être un truc là que j'aurais, pu faire.
Toujours. Souvent, toujours. Gars. Moi, je suis très insatisfait de base. Donc, il y a toujours, quoi que je fasse, en fait, un truc où je dis, ah merde, j'aurais dû faire ça, mais quel con. Et je suis toujours un peu dans ce mood-là, même aujourd'hui, quoi que je fasse, en fait. Il y a toujours un truc où je me dis, il y a mieux à faire encore, tu vois.
Tu me pousses, j'ai
mais sauf que plus, ça prend moins. Avant, ça me faisait chier vraiment. J'ai dit, putain, je m'en voulais. Là, aujourd'hui, je m'en veux moins. J'ai dit, bon, c'est la life, on ne l'a pas fait. Il y a une phrase qui est assez cool que je me dis souvent. Je fais, on peut donner que ce qu'on a. Ça t'empêche, tu sais, un peu de... Tu ne peux pas donner plus que ce que tu as en vrai. Ouais. Donc, tranquilliser. Voilà, tu ne peux pas avoir tout le temps le... la bonne énergie, tu as cette énergie à donner, bah,
un instant T,
donne ça. Et c'est déjà très cool. C'est la tienne, t'appartient, tu vois.
De ouf. Et Serge Le Mito, bon, c'est un des personnages qui t'a fait connaître. C'est quoi tes points communs avec Serge Le Mito, selon toi? T'avais des...
c'est l'enfance, en fait. C'est la frustration d'enfance. Tu vois, c'est, les, c'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte de ça en en parlant. J'ai fait un aparté là, sur Canal et tout. Et elle m'a posé un peu une question similaire et tout. Et je me suis dit, je crois que c'est l'enfance. Et je me suis rendu compte, en fait, que tu sais, c'est un gamin de 12-13 ans qui se rend compte, en fait, qu'il n'est pas un héros. Et ça le rend ouf. Tu vois, il aimerait être un héros, il aimerait être à la hauteur de ses rêves. Et il n'y est pas du tout. C'est l'inverse de ses rêves. Et il se raconte une histoire et il préfère vivre dans cette histoire que dans la réalité. Et moi, à 12-13 ans, gars, j'étais comme ça. Enfin... Même je mentais et tout, tu vois, aux copains pour avoir une vie de ouf, alors que ma vie, c'était tout sauf ouf. Mais je pense que c'est ça le point commun que j'ai avec lui.
Ça rejoint dessus. Parce que quand je revois les images de ça, j'ai toujours... Enfin, moi, c'est ouf, parce que cette série, bon, moi, j'avais beaucoup regardé à l'époque, mais c'est devenu un mème aussi. Tu vois, sur Twitter, tu as dû voir l'utilisation qui pouvait être faite de l'image, je sais pas si tu as vu ça. En gros, des gens pour, parler d'un mytho ou montrer que quelque chose était inventé,
ouais,
qui juste postaient l'image.
Ouais, c'est
vrai. Et c'est devenu tout un truc, et on voit que ça a pris une ampleur.
C'est vrai.
Et dans ton cas...
Oh, j'ai vieilli, hein, putain, je viens de voir l'image de Serge, là, regarde ma tête, gars, on dirait que j'ai 60 piges.
Mais non, non, du tout. Du tout. On va aller voir, mais quand tu vois aussi ce personnage-là de Serge Le Mito, on va parler forcément après de Marc, de La Flamme et du Flambeau maintenant. Clairement aussi, tu t'es fait connaître avec des personnages très marqués qui ont leur truc. Donc, Serge Le Mito, il balance des mythos. Marc, je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais il y a le côté un peu con, clairement, qui ressort.
Ah oui, un idiot, un débile, gars, on peut le dire.
Clairement. Et toi, comment est-ce que est-ce que tu as ce truc où tu vois dans le regard des gens que on te voit comme certes tu vois Jonathan Cohen mais aussi comme le gars de Serge Le Mito, et donc du coup on t'imagine, j'ai regardé des commentaires sous des interviews des trucs que t'avais fait et le nombre de gens notamment de cette période Serge Le Mito qui disaient mais en fait là je sais pas si j'aime les mythos ou si c'est vrai ou genre j'arrive pas à le prendre au sérieux
de toute façon c'est tout le temps ça quand je parle les gens disent ouais on sait pas s'il dit la vérité ou pas mais je comprends en fait ils m'ont connu avec ça et je pense que le personnage il était je sais pas, il devait avoir une vérité dans ce personnage, tu vois, où ils se sont dit, il existe, tu vois, où il dit, il est réel en fait le Serge. Et du coup, quand ils voyaient dans la rue, ils font, hey Serge, ah putain, c'est un peu, ils ont du mal à imaginer que c'est le qu'on joue en fait. Ouais. Mais je pense que plus ce personnage que d'autres d'ailleurs.
Je pense que c'est un truc, t'as et pour la construction des personnages et pour bah, le simple fait d'être, de faire de l'humour aussi, où j'imagine que tu as la même chose, et ça, je crois, il me semble qu'on en a parlé aussi pas mal de fois, mais ce truc de, bah, en fait, c'est pas parce que t'es pas drôle le temps d'une interview ou le temps d'une discussion.
Bien sûr.
Que, enfin, c'est juste que c'est ton.
Bah ouais, en vrai, on est tellement de choses, tu vois. Voilà, là, on parle détente. Ouais. Et c'est, tu vois, on est multiples. Il faut assumer ça, tu vois. Faut aimer ça.
Clairement.
Il faut donner ça aussi aux gens, de dire, voilà, le mec, il peut être drôle, il peut être sérieux, il peut parler de tout, il peut être sensible. Enfin, c'est le game. Hein. J'ai honte de faire ça, mais ouais.
Ouais, tu veux... Ça cache un peu les chaussures, pour l'instant, sont pas, ça va.
Non, attends, regarde, voilà. Pour non, vous capter. Voilà, et ben voilà, j'ai pas honte. J'ai les chaussettes et j'ai les Birkenstock.
C'est fort. Non, mais c'est détente, c'est dans le mood.
Écoute, c'est très détente. J'ai besoin d'être dans la détente. Donc, voilà, je me suis mis à l'aise chez toi.
Cette ambiance cocooning, on a même des bougies. Je crois qu'on est
ouais,
à la fin. On voit qu'on est à la fin de la saison, parce qu'on est à la fin de la bougie aussi. On verra si elle tient le.
Ah ouais,
est-ce qu'on peut faire un jeu?
Tu l'as depuis janvier, celle-là?
Bah, je crois qu'elle est depuis janvier. Hein.
Non, t'es pas sérieux?
Bah, je crois que si.
Waouh, elle est miraculeuse.
Ça a tenu, hein. Mais on va voir, peut-être qu'on peut jouer au jeu. Qui termine en premier, la bougie ou nous, notre interview? On va voir le truc, ça peut durer longtemps.
Je pense qu'elle va durer encore plus longtemps que l'interview, je te jure.
Elle veut tenir.
Il y a encore de l'huile dedans, ça va être...
Ça a l'air de bien tenir. Si on avance un peu, autre point de bascule majeur, ça a été une série à succès, là aussi, qui t'a fait... forcément connaître un plus grand public. Family Business, ouais. Un autre cadre forcément d'une ouais. série qui s'est vue principalement en ligne. Family Business, c'est en ligne mais sur une plateforme et dans un cadre forcément bien, bien différent. La série a vraiment fonctionné, donc tu incarnes à ce moment-là Joseph et tu as la brillante idée d'inclure toute ta famille dans une affaire de drogue.
Ouais.
Chose clairement.
Toujours une bonne idée. Ouais, ça c'est vraiment une série que j'aime profondément parce qu'elle a été faite tu vois, aussi en famille. Tu vois, avec Igor Gottesman, avec Olivier Rosenberg, il y a Darmon qui est venu aussi, tu vois. Et c'est assez génial parce que ça a été aussi un énorme terrain de création, tu vois, où nous, on voulait donner... Enfin, tu vois, Igor, on se connaît très, très bien, et Olive, c'est mon ami d'enfance, ce fameux gars avec qui j'ai été au théâtre, ouais. Tu vois, donc c'est mon ref. Et on voulait donner aussi au public une manière de s'exprimer, une manière de tu vois, de dialoguer, de partir et en couille en même temps, de rester dans une réalité, tu vois.
On a des extraits. Ouais, ah, c'est très, très bien produit comme émission. On a quand même des extraits.
Je suis épaté. Hein. Je ne m'attendais pas à ça.
Hallucinant.
Ouais. Et de voilà, c'est vraiment une série que j'aime pour ça, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'elle nous ressemble véritablement... Et elle va assez loin, en fait, au final. Et les gens, je pense que les gens ont aimé ça.
Et toi, quand tu es acteur, comment est-ce que tu choisis ton rôle? C'est une question qui revient souvent, mais tu vois, t'as forcément une identité qui s'est forgée au fur et à mesure, un type d'humour que tu peux kiffer particulièrement. Ouais. Mais comment se fait ce choix-là? C'est quoi? Tu reçois des scénarios et t'es en mode genre, est-ce que je me retrouve dedans? Comment est-ce que tu choisis un bon rôle?
C'est une bonne question, gars, parce que en vrai, c'est plein de facteurs différents. Déjà, il y a ceux qui, les réalisateurs, tu vois. Il y a des réalisateurs, moi, avec qui je rêvais de tourner, tu vois, et que j'admire et je me dis putain, quand ils te proposent un rôle, tu vois, Kerven de Lépine, j'adore leur cinéma, j'étais tellement heureux, j'ai dit oui avant même de lire quoi que ce soit, ou même Cédric Kahn, où là, tu vois, par exemple, je tourne avec Toledano Nakash. Donc on est avec des gens que j'admire et j'ai la chance qu'ils me proposent quelque chose. Donc déjà, de fait, j'ai envie de travailler avec eux. Et puis après, tu lis les scénarios de gens, voilà, que, par exemple pour des premiers films, tout ça. Et c'est intéressant de... Moi, je regarde beaucoup les dialogues. Ça m'intéresse, les dialogues, parce que dans les dialogues, quand tu as de la vérité dans les dialogues, très souvent, tu as de la vérité aussi dans le propos. C'est le reflet un peu de la vision du gars, quoi. Ouais. Et voilà, et puis il y a aussi le personnage, évidemment, que tu défends, s'il est consistant, ouais. s'il a quelque chose qui te ressemble un peu.
Et cette possibilité d'aller sur de l'impro ou d'aller te l'approprier toi-même, c'est quelque chose qui joue aussi?
Tu peux pas le faire avec tout le monde. Ouais. Il faut accepter les cadres, tu vois, il y a des gens avec qui je vais pas le faire. Et il y a des gens, il y a d'autres avec qui, effectivement, ça s'y prête, tu vois.
Ouais.
Tu peux pas le faire partout. L'impro, elle est intéressante, effectivement, quand tu fais les scènes, tu vois, typiquement, quand tu es sur une scène et que tu te dis, tiens, on peut aller upgrader, mais elle est aussi très intéressante en répète. Ouais. Elle est très intéressante quand tu fais ton petit travail à la maison, tu vois, et que tu te dis, bon, vas-y, cette scène, j'ai du mal à me la figurer vraiment, tu vois, je vais me l'improviser ouais. avec mes mots. Et j'essaye de voir, d'essayer de comprendre la scène et les enjeux avec de l'impro. C'est intéressant aussi pour ça, l'impro.
Un mélange des deux, mais c'est vrai que c'est l'exercice, quand tu le prends d'un regard extérieur, je pense qu'il est le plus fascinant et le plus impressionnant, parce qu'il y a un côté sans filet, je pense, qui peut faire peur. Enfin, tu vois, moi, quand tu regardes ça et que tu connais rien à ce milieu, tu te dis, mais partir sur de l'impro, aller à un lieu où, certes, tu peux avoir des repères, des bases, des balises, mais en même temps, il y a aussi une forme de liberté. C'est...
Ouais, et puis surtout, ça te permet de, au-delà de, du côté sans filet, par exemple, tu vois, on s'en fout de se tromper, en vrai. On s'en fout. On est là pour essayer de comprendre et c'est pour essayer de créer. Et en vrai, sur les impros que je peux faire, putain, mais t'en as tellement qui vont à la poubelle, mec, qui veulent rien dire. Mais on s'en fout, parce que nous, notre but, c'est de chercher la pépite. D'aller chercher la pépite, et parfois, il y a de la merde, il y a de la merde, putain, au bout de la 15e, bam, il y a une pépite. Boum, on se bat pour ça, pour essayer de choper la pépite. C'est tout. Ouais, ça sert à ça, en fait.
Il faut accepter qu'il y ait des moments où, en fait, vous allez tourner pendant un moment, il n'y aura pas un truc qui ressortira.
Mais oui, il y a zéro. Si on est des petits chercheurs d'or, et ben, il y a plein de fois où les gars, ils rentrent bredouille. Ouais. Et de temps en temps, il y a une pépite. Mais au moins, on a été digué pour au moins essayer de la trouver. Il y a zéro garantie qu'on la trouve, mais en vrai, on a été chercher, tu vois.
Très, très fort. Et on passe, du coup, à un autre point de bascule qui est peut-être le plus récent, et en même temps, il va falloir en parler pas mal en détail. C'est, du coup, l'idée de faire le remake d'un format américain produit par Ben Stiller, mélangé donc à une parodie de l'émission de télé-réalité Le Bachelor. Ça s'appelait La Flamme, et c'est un tournant, là, aussi, clairement, dans ta carrière, dans ton parcours, je pense qu'on peut le dire.
Clairement.
T'as dû le sentir aussi. Comment c'est venu, déjà, de base, l'idée du truc t'as vu passer l'élément, on te l'a proposé?
Non, je l'ai vu passer. Et c'est marrant, parce que je l'ai vu passer sur Canal+. Ça passait pas du tout en clair, du tout. Okay. Moi, tu sais, je peux passer 1000 ans, que ce soit sur Canal à la demande ou Netflix et trucs. Ouais. Mater 1 milliard de programmes sans appuyer sur un, tu vois, pour voir ce qu'il y a, tu vois. Okay. Et je digue sur Canal Allemande, et là, je vois 2-3 teutés de gars que j'aime bien. Je fais, du coup, ça, Burning Love. Il y a ce mec-là que j'adore, il y a... moi, j'adore Ken Marino, tu vois, je le vois, je l'ai vu dans 1000 trucs, 1000 comédies américaines. Je dis, c'est quoi, ça? Je vois Ben Stiller, je vois un truc. Je dis, attends, c'est quoi? J'allume, et je me prends la saison en pleine poire. Et je fais, exceptionnel. Je te parle de ça il y a 5-6 ans, tu vois.
Ah, ça remonte quand même déjà.
Mais oui, c'est vieux. C'est vieux. Le truc, il s'est fait en 2011-2012. T'imagines la vieillesse du truc. Et dans l'idée, j'en parle à tous mes potes. Je dis, putain, les gars, faut que vous voyez ça, et tout. Et les gens commencent à me dire, putain, c'est chambé. Et quand j'ai monté ma boîte de prod, moi, j'étais je parlais avec les gars de Canal. Ils essayaient de me dire, t'as pas des trucs. Et j'ai dit, putain, il y a un truc que j'adorerais faire, c'est l'adaptation d'un show américain. Il me dit, pourquoi pas, vas-y, essaye. Vois ce que... Et là, j'en parle à un coprod et je lui dis, tu veux, t'as des points de chute aux États-Unis, t'as des trucs. Il fait, je peux, j'ai des trucs.
Avec cette voix-là, précisément.
Il a exactement cette voix, il va se reconnaître. Ça s'appelle Stéphane Noé. Et j'ai dit, tu pourrais essayer de choper les droits de ça? Il m'a dit, vas-y. Et boum, ça s'est fait, mec. Il a eu une réponse. Très vite, les gars ont dit « Ouais, why not ?» et tout. Et ça s'est mis en marche. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec un accord de principe très, très vite. J'ai dit « Waouh !» J'en ai parlé aux comédiennes que je connaissais un peu. J'ai dit « Les filles, j'ai potentiellement l'adaptation de ce format-là. » Elles pètent un câble, elles voient que c'est un truc du Bachelor et tout, en pure comédie. Elles font « Mais vas-y, on est chaud. Je vais vous donner un accord de principe. » « Ouais, on donne un accord de principe. » Du coup, j'ai les droits, j'ai un accord de principe des filles. Je vais voir Canal, je fais « J'ai ça. Qu'est-ce qu'on fait ?» Il fait, direct, après. Ouais. Rendez-vous le plus rapide de ma vie chez Canal. Et Dieu sait qu'ils m'ont dit non à plein de trucs, tu vois. Et du coup, on se lance dans l'écriture. J'appelle Florent Bernard et Jérémy Galland. Ouais. On se met à l'écriture. 3 épisodes validés step by step par Canal. Les meufs commencent à lire. Elles, putain, c'est hilarant, c'est super. Canal dit, vas-y, on valide pour les 3 autres. Ouais. Ça s'est fait avec une telle facilité, il y avait 2 épisodes à créer et voilà quoi.
Ouais, et le risque d'identifier sur ça, c'était quoi? C'était que le concept fonctionne moins en France, ou alors tu étais confiant sur le truc et tu étais en mode ça marchera.
C'était pas tant que. Alors, que ça marche, succès, impossible à savoir. Par contre, que ce soit totalement adaptable chez nous, 100% sûr. Et puis on faisait un super trio avec Flo, Jérém et Wam, et ça s'est écrit avec une telle fluidité. On se marrait, on pleurait de rire à chaque séance d'écriture, tu vois. Et tout s'est écrit très rapidement, en fait, au-delà de l'adaptation, parce que c'était des épisodes, chez les Américains, c'était des épisodes de 7 minutes pour Yahoo. Ah, ils ont réuni en 15 minutes. Donc, nous, il fallait créer quand même 12 minutes de plus, tu vois. Plus deux épisodes qui n'existaient pas. Donc, on a pris plein de trucs, évidemment, des Américains, les persos, des vannes, des trucs et tout. Et puis, on a créé aussi tout, la jonguille, les trucs, tu vois.
Et justement, tu vois, un truc comme la jonguille, comment ça se... Et je sais que dans le chat, ça revient beaucoup en termes de questions. Un truc comme la jonguille, comment est-ce que cette idée apparaît?
Je suis en face de Flo. Je dis, putain, ça serait bien que Marc... À un moment donné, il y a une espèce de teuf qui est le seul à pas connaître, genre une espèce de Noël, un truc comme ça. Il me fait « Ah, Eric !» Et on commence à retourner. Moi, j'appelle tout le monde Jean Balboul, Jean Figou, un truc comme ça. Je sors le Jean Guil comme ça. On commence à trouver le truc. Il y a Jérémy qui vient le lendemain. On lui raconte cette espèce de fausse fête. Il fait « Putain, ce serait bien qu'il ait bras trop courts. » Et du coup, ça part en tu vois. Et ça se crée d'une envie de dire, putain, ce serait bien qu'il ait... En fait, c'est marrant, les idées sortent de et si, tu vois. Ce serait marrant, ou de qu'il ait ça, une nana, ce serait marrant que... Et ça s'est créé comme ça aussi simplement, tu vois.
Très fort. Mais l'idée de... Comment est-ce qu'une idée peut émerger comme ça,
ça mais ça sort de nada. Ouais. Tu vois, ça sort d'un et si. Ouais. Et puis après, ce qui est fou, en fait, c'est que ces idées-là, elles existent. C'est que d'un coup, on passe de la feuille... on va le faire, et tu appelles ton chef d'éco, tu fais, ouais, il me faudrait alors des déguisements, les costumes, quoi. Et qu'en fait, ça se fabrique au fur et à mesure, et tout d'un coup, ça se matérialise sur le plateau, et tu fais, non, mais c'est pas possible, on a écrit ça, maintenant c'est réel. Et après, t'as l'étape où les gens vont le kiffer ou pas, vont capter. Nous, on avait peur, moi j'avais peur de l'épisode de la Jean-Guy, l'épisode 4, parce que je dis, waouh, on sort tellement de la télé-réalité du truc, on passe dans un autre univers, je me dis, putain, est-ce que les gars, ça va pas trop les désarçonner? Et en fait, pas du tout.
Ouais, parce que du coup, pour ceux qui n'ont vraiment pas le contexte, donc une fête, enfin c'est une fête, pardon, hein, évidemment, nationale, qui a lieu le 14 novembre.
C'était un boulanger qui avait les bras trop courts et qui ne pouvait pas beurrer lui-même ses tartines. Et comme il faisait le meilleur pain, du coup, les gens se déguisent pour le fêter en beurrant des tartines.
Avec des règles très strictes, on s'en va applaudissements notamment.
Exactement, on n'a pas le droit d'applaudir par respect pour lui.
Voilà.
Et ça commence à 9h, ça s'arrête à 15h et ça reprend à 19h.
Règle très, très, très stricte là-dessus. Donc, effectivement, il y a eu la jonguille. Et toi, tu sais, tu parlais de meufs que tu as contactées dessus. C'est quoi? C'est différentes actrices aussi qui sont dessus et qui ont joué dessus. Il y a quand même un côté qu'on retrouve, mais qui est positif au sens bande de potes qui fait cette série-là.
Ouais.
C'était indispensable pour toi pour arriver à avoir une alchimie qui fonctionne bien?
Ouais. C'était important parce que, en vrai, ce qui est assez cool, en fait, quand on est. Tu vois, toutes les filles à 99%, c'est des copines. Tu vois, on se connaît. Tu vois, Céline Salette, par exemple, on était au conservatoire ensemble. Donc, on s'est vu grandir. Elle a pris son chemin, j'ai pris le mien. Mais. Ou Florence Foresti, ou Géraldine, ou truc. C'est des vraies copines, tu vois. Et c'est des filles avec qui on se marre. Enfin, tu vois, c'est. C'est mes amis, quoi. Et je me suis dit, ça m'éclatait de les voir dans ce délire-là, parce qu'en plus, c'est des actrices que j'admire profondément, que je trouve de grandes actrices et tout, en tout. Tu vois, Adèle et Jean-Paul, c'est une immense actrice, elle sait tout faire, regarde, elle est hilarante, elle a fait une palme d'or, quoi, on parle, tu vois.
Ouais.
Mais ça les éclatait d'être dans ce délire-là. C'est-à-dire qu'elle ne l'aurait jamais fait par amitié, tu vois. Elle ne l'aurait jamais fait. S'ils avaient été de la merde, on aurait fait « casse-toi ». Parce qu'en fait, elles ne rigolent pas avec le taf.
Ouais, ça reste leur taf.
Et du coup, elles avaient envie de ce défi-là, de se dire « putain, cet humour, on ne l'a pas chez nous ». Et en vrai, c'est vrai, cet humour, on ne l'avait pas chez nous en série. On l'a en sketch, on l'a en truc, mais on ne l'a pas chez nous. On l'a chez les Américains. Et ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas. Et moi, je rêvais qu'on ait cet humour-là, je rêvais qu'on ait cet ADN-là dans notre pays, tu vois. Et même le flambeau. C'est rare sont les séries. Et d'ailleurs, si tu peux m'en sortir une, tu vois, depuis H, qui était un sitcom, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc, je suis content qu'on ait pu donner ça au public, tu vois, qui... S'ils aiment les séries un peu anglo-saxonnes, tu vois, un peu à la The Office, voilà, on peut avoir ça aussi fait maison. Ouais. Avec des acteurs chamés, des actrices chamées, et ça, c'est ça qui me tenait à cœur.
Ouais. Avec en plus, c'est intéressant de voir à l'écriture des gens qui ont des parcours en tout genre. Il y a aussi des gens d'Internet, Flaubert, on peut le dire en tant que tel, qui est de base d'Internet. Tu peux avoir un Freddy, tu peux avoir des gars comme ça qui ont participé à l'écriture.
Mais parce que c'est, ouais, c'est des bombes. Florent Bernard, c'est un génie. J'ai tellement de chance que ce mec est. Et c'est un génie. Voilà, c'est un mec qui taffe. De malade, qui a des idées de dingue, qui est overstructuré, c'est une machine de guerre. Et donc, moi, j'ai eu de la chance de le rencontrer, Florent Bernard. Et la série n'aurait jamais été ce qu'elle est sans Florent Bernard. Ça, c'est évident. Tu vois, Freddy Gladieux, je l'adore, je le suis depuis un petit bout de temps. Il me tue de rire et j'étais. Et c'est un gars, j'adore sa présence à Freddy. Quand on est quand on brainstorm avec les gars, je sais qu'il y a Freddy, je suis heureux, tu vois, et puis il donne des idées, enfin, c'est super. Et ça brainstorm cette année, de la saison 2, elle a été, vu qu'elle est sortie de terre, tu vois, il n'y avait pas, pour le coup, d'adaptation de ça. Donc celle-là, mon pote, elle est née du brainstorming, elle est née des talents de chacun, tu vois.
Très fort. Enfin, on voit du coup aussi le besoin de s'entourer aussi en termes de personnes en tout genre. Et sur justement maintenant, notamment là, le tournage du Flambeau, on l'a vu aussi sur La Flamme, t'as eu, on voit qu'il y a des moments, je ne l'ai pas encore vu sur le Flambeau, les trois premiers épisodes, mais on le voit sur La Flamme, des moments où on a l'impression que certains acteurs ou actrices sont à deux doigts de rire ou sont en train de rire même pendant des scènes. Je crois que tu as la scène de où tu lâches Que se passe, Paso, Nono Rosé, je sais pas quoi.
Qui n'est même pas dans la série, gars, qui est dans le bêtisier.
Ah, il n'est même pas dans la série ?
Non, en fait.
C'est ouf.
Parce que c'est marrant, j'ai eu le même délire que toi.
Mais je crois qu'il y a un mélange de...
Je fais un flashback à un moment donné dans Le Flambeau, où je dis, trouvez-moi ce truc, où je dis Nono José, Nono truc. Ouais. J'ai cherché partout, il n'y a pas. C'est l'épisode... non, il y a pas. Et en vrai, il était dans le bêtisier.
What?
Et ouais, mon pote.
J'ai un mélange des.
Mais non, mais moi aussi j'ai un mélange parce que le bêtisier a tellement été vu aussi que j'avais moi aussi l'impression qu'il faisait partie de la série. Et je fais, mais c'est sérieux? Et en fait, ça faisait partie du bêtisier. Donc en fait, c'est normal qu'il rigolait.
c'est le principe.
Mais non, mais là, en vrai, si tu, il y a des délires. Tu vois, quand je fais Mozzarella di Bufala, t'as Ramzy et Adèle, les deux en synchrone, ils font. Que mozzarella di bufala. Et les deux, ils font. Mais on a eu des pleurages de rire aussi dans cette saison.
Ouais, t'as eu des moments, j'imagine. Ça va être dur aussi de garder son calme. Je veux dire son sérieux. C'est aussi bizarre de dire son sérieux, mais de pas craquer sur ton.
Sur tous, parce qu'en vrai, tout le monde sort des scuds dans tous les sens. Et en vrai, c'est ça qui est kiffant. Quand ça commence à rire, c'est qu'on est au bon endroit. Il faut juste essayer de tenir un tout petit peu plus pour que ce soit montable. Mais ça raconte qu'on est au bon endroit de l'humour, tu vois. C'est bien de... Moi, j'adore quand ça rigole, moi.
Ouais. Et limite, en fait, ça fait partie du truc aussi. Et on sent que, de toute façon, que tout le monde s'amuse sur le plateau.
Ouais. En vrai, le but, c'est de s'amuser, même si on a des journées Les journées sur le Flambeau, elles étaient...
Vénère.
Ah, c'était costaud. Hein. Fallait se les taper. Enfin, les gens peuvent pas se rendre compte, mais... Mec, tu tombes sur la plage 12 heures par... Enfin, 12 heures, j'exagère, parce qu'en vrai, le soleil, quand il tombe... C'est fini, mais tu commences très très tôt et tu dois enchaîner 10 minutes utiles par jour. C'est d'une violence. Et en même temps, là-dedans, faut garder du fun. C'est un équilibre assez balèze quand même.
On en revient à ce qu'on disait, le fait de réussir à être drôle et d'autant plus sur de l'impro parfois, alors que tu as une exigence de tournage.
En fait. Et puis, il faut que ce soit incarné. Il faut que ce soit. Moi, quand je dirige les gens, je veux que ce soit. Très interné, qu'on y croit, que ça fasse jamais sketch. Si ça fait sketch, j'ai perdu. S'il y a un truc qui fait sketch, c'est fini, c'est poubelle. Je peux pas, c'est fini. Parce que tout d'un coup, je crois plus. Et en vrai, moi, je veux qu'on y croit. Je veux qu'on croit à tous les personnages, qu'on se dise, ils existent. Et c'est ma fierté un peu là-dedans, c'est que très vite, on oublie les acteurs et on est dans les personnages. Tu vois ce que je veux dire? J'oublie que Cadmerade, il a une perruque. J'oublie que l'autre, Filou et Patoche, tu vois. Ouais, Adèle, c'est Cœur de singe. Leïla, c'est Alexandra la folle. Et on a oublié les acteurs. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il faut une vraie rigueur sur les persos, sur le jeu, sur jamais que ça fasse sketch, sur toujours prom dog. C'est hyper important.
Très, très fort. Pour finir, parce que là, on approche à la fin du...
Déjà
la fin de...
Ouais, déjà, gars, je vais dormir, là.
Franchement, c'est le moment de dormir. Franchement,
ouais.
Là, il y a moyen de le faire tout de suite.
Il est bien chez toi. Hein. Y a un, c'est un vrai bar ou c'est que...
c'est un petit, petite ambiance. C'est petite pour ambiance, le côté...
Okay, pas mal.
Je suis pour prendre un verre après. Tu vois, c'est... Il y a aussi des micros, donc ça reste un bar...
Ouais, un bar talk.
Un bar talk, c'est exactement. Ça peut être un petit concept. Pour terminer, je vais te proposer de faire un exercice que tout le monde a fait, même les candidats à la présidentielle.
C'est vrai.
Ont pu faire sur des questions différentes, forcément.
Ouais.
C'est le format du oui-non. Idée très simple.
Tu m'as dit Bill Gates.
Exactement, il y a des personnes en tout genre qui peut esquiver en tout genre. Laisse un oui-non
ouais.
Où je vais te poser un maximum de questions et en 60 secondes, pour répondre par oui ou par non à un maximum de questions. Le plus possible, répondre par oui ou par non. Après, je te laisse si tu veux
ouais,
répondre à côté s'il faut répondre à côté. Les questions sont très touchy en plus. Hein,
non, c'est vrai.
Non.
Ah putain.
On va pouvoir... T'es prêt ou pas ?
Vas-y, vas-y.
J'ai une vingtaine de questions, on va voir combien t'en fais en 60 secondes.
Ok, je suis très lent du cerveau, mais vas-y.
Alors, on va démarrer. 3, 2, 1... Oh, on a une musique en plus.
Alors là...
C'est très fort.
J'ai une grosse pression, vas-y.
Docteur juif, est-ce que tu le recommandes comme médecin ?
Oui.
Est-ce que tu pourrais faire Koh-Lanta ?
Non.
Est-ce que t'as déjà assisté à une vraie descente de police ?
Non.
Est-ce que si j'appelle mon enfant Marc, t'acceptes d'être le parent ?
Oui.
Est-ce que ça t'arrive de rater une vanne ?
Oui.
Est-ce que le 14 novembre devrait être férié en France ?
Oui.
Est-ce que Pierre Ninet, il est moins drôle que toi ?
Non.
Est-ce que tu regrettes parfois ton ancien taf de vendeur de fenêtres ?
Never.
Peut-on rire de la religion ?
Oui.
Est-ce que t'aimerais bien jouer un héros Marvel ?
Oui.
T'as déjà fait pousser du cannabis ?
Non.
Est-ce que t'aimerais être incognito parfois dans la rue ?
Non.
Fucking Fred, est-ce qu'il pourrait sortir un album un jour ?
Oui.
Tu rêves d'avoir un César ?
Ouf.
Bon, t'as déjà été confronté à un mytho ?
Oui.
Un vrai mytho ?
Oui, okay. Oui.
Est-ce que le flambeau, c'est mieux que la flamme ?
Oui.
Est-ce que t'as des tatouages ?
Non.
Valérie a-t-elle vraiment eu des flatulences ?
Oui.
Un film Serge Mytho, est-ce que ça pourrait se faire ?
I don't know.
Budapest, est-ce que c'est bien pour aller en couple ?
Non.
Dernière question pour terminer. Marc, est-ce que votre choix est fait ?
Oui.
Très bien, merci beaucoup. Très fort.
J'ai répondu à combien ? À tout
quasiment ? T'as répondu à quasi tout. Je pense qu'on a une quinzaine.
Ah, trop bien.
C'est pas mal.
C'est pas un record.
Je crois pas que ce soit un record. Mais il y en a, je te dis, qui esquivent les questions, donc ça compte pas. Tu vois. Toi, ouais. Franchement, t'as joué le jeu.
Non, j'ai joué le jeu.
Moi, j'ai vu, kiffé. Hein. Okay. J'ai kiffé.
Trop bien.
T'as passé un bon moment ?
Super, Hugo. Franchement, c'est trop cool.
Trop bien. Bah, c'était grave sympa de pouvoir.
Bah, mec, c'est super avec, cool. Très cool, gars. Franchement, je.
Merci beaucoup.
Je suis très content.
T'as réussi à pas t'endormir en plus
bah... Non, je me suis pas endormi. J'espère que j'ai pas endormi les gens, gars, parce que non, en vrai, ça peut-être ça pionce sur Twitch. Font,
ça ronfle sur ce temps. Il y a du monde. Il y a du monde. Merci encore pour ta présence. J'invite tout le monde à voir. Pardon, t'allais.
Non rien. Dire, tu vois, c'était que des gestes. Non, ça parlait pas. C'était des gestes. Voilà.
Un langage des signes.
Vas-y, boum.
Et moi, j'allais te dire, enfin, j'allais dire aux gens surtout, bah, d'aller voir le flambeau, tout
ouais,
simplement, si ils n'ont pas encore vu.
Le 1, 2, 3 est disponible et le 4, 5, 6 arrive lundi. Et les gars.
Combien d'épisodes en tout ?
9.
9 épisodes.
Et qui gagnera ? C'est ça la vraie question.
Voilà,
qui va
question.
Gagner cette aventure ? Moi, je sais.
Ça, tu sais
que j'ai monté les épisodes.
Fort.
Mais je sais, et vraiment, c'est. Jusqu'à la fin, c'est n'importe quoi. Le flambeau, ce qui est chiant, mes gars. C'est que c'est n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime. Je veux... Voilà, je trouve que c'est cool de donner ça aux gens. Un vrai grand n'importe quoi fait grand sérieux. On se prend pas au sérieux. Et on... Voilà, ça fait du bien de voir du n'importe quoi.
On se prend pas au sérieux, mais c'est fait de façon très sérieuse.
Ouais.
Et c'est très fort.
Et, ouais.
Et c'est ce qui rend... fait que ça marche aussi bien. Merci encore pour ton temps.
Merci
génial.
À toi, Hugo. Merci de m'avoir invité.
Voilà donc pour cet échange. J'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.